dit années 60 dit guerre froide. Ce conflit, essentiellement idéologique, qui oppose depuis 1945 les États-Unis et l'URSS, est entré dans une phase dite de coexistence pacifique. C'est ce que nous explique André Caspi, historien et spécialiste des États-Unis.
Les États-Unis admettent l'idée que l'Union soviétique, c'est le paradis du marxisme, c'est le paradis du socialisme, mais qu'on ne peut rien changer. Et d'un autre côté, l'Union soviétique admet que les États-Unis constituent un pôle de résistance à l'expansion marxiste et représentent la nation capitaliste dans tous ses États. Avec la coexistence pacifique, États-Unis et Union soviétique peuvent éventuellement collaborer, sans trop insister sur le terme de collaboration, mais en tout cas peuvent survivre les uns à côté des autres.
Ce dégel de la guerre froide est marqué cependant par des crises majeures. En Europe, le mur de Berlin, érigé en 1961, vient consacrer la pérennité du rideau de fer, et la crise des fusées de Cuba en 1962 réveille quant à elle le spectre d'une guerre atomique et montre les limites de cette coexistence pacifique entre les deux géants. You ain't nothing but a hound dog. Années 60 dit aussi Golden 60s, 30 glorieuses. Ces années sont en effet vues comme l'âge d'or de la prospérité économique et du modèle capitaliste en Occident. Les sociétés s'industrialisent et entrent de plein pied dans l'ère du consumérisme. Qui dit années 60 dit enfin triomphe du modèle culturel et moral américain qui s'exporte avec succès en Europe. Le gin, le chewing-gum, le Coca-Cola, le rock'n'roll deviennent très vite les symboles et les moyens d'expression d'une jeunesse de plus en plus avide d'émancipation. Une jeunesse qui se veut transgressive, qui se pose en contre-culture, rejetant les codes et les valeurs traditionnelles de ses aînés. Autre monde, autre évolution. Au Vatican, le gouvernement de l'Église se drape dans une sacralité hermétique. Pie XII s'isole dans l'exercice du pouvoir, privilégiant, selon ses propres mots, des exécutants plutôt que des collaborateurs. L'immobilisme et une certaine répression de la dissidence caractérise les dernières années de son pontificat. Ce raidissement doctrinal vise surtout la nouvelle théologie allemande et française. Daniel Moulinet, prêtre et historien, nous explique pourquoi.
C'est une théologie qui va rompre avec une certaine utilisation de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, qui avait un monopole dans l'enseignement donc de la théologie. Ici, on va avoir recours à différentes sciences humaines, et notamment un retour aux sources patristiques, les pères de l'Église, qui vont permettre de renouveler la doctrine sur l'Église, également un retour aux sources bibliques, et puis aussi on va vouloir tenir compte davantage du contexte. On va replacer la théologie médiévale dans son contexte, ce qui évidemment va quelque peu relativiser la pensée de Thomas d'Aquin, et par conséquent, Père Chenu écrira un livre sur la théologie du travail, le Père Conger, jalon pour une théologie du laïcat. On va tenir compte davantage du contexte dans lequel l'Église doit annoncer son message. Elle rompt avec les habitudes et elle rompt avec ce que les différents papes précédents avaient donné comme consigne. Par conséquent, on a là effectivement quelque chose qui est perçu comme une contestation, comme une relativisation de ce qui était de la manière d'enseigner qui était pratiquée.
Les chefs de file de cette nouvelle théologie, qui seront d'ailleurs les acteurs de premier plan du Concile Vatican II, inquiètent Pie XII et le Vatican. On peut même parler d'une véritable répression.
Les chefs de file vont être écartés de l'enseignement. Le père Chenu, avec la faculté de théologie dominicaine du Sauchoir à Paris. Le père Conger, qui devra partir à Strasbourg. Le père de Lubac, qui enseignait donc à la faculté de théologie de Lyon et qui sera dont suspendu, en quelque sorte, pendant plusieurs années.
Le 28 octobre 1958, Angelo Roncalli succède à Pie XII et devient Jean XXIII. L'apparente bonhomie du personnage cache un pape soucieux de l'aspect pastoral de sa charge, un homme à l'écoute, attentif aux signes des temps. Écoutez Alberto Meloni, historien de l'Église et spécialiste du Concile Vatican II.
Et les signes des temps, ce n'est pas décerner du point de vue sociologique et ce qui se passe dans la réalité, mais c'est de comprendre à la lumière de l'Évangile les choses qui se passent dans le monde séculier, où il y a les signes de l'Évangile qui viennent, du règne qui viennent. Alors l'attente de libération, l'égalité l'homme-femme, la décolonisation, l'ascension des masses ouvrières sont des signes du temps, car là il y a une puissance de l'Évangile qui surgisse de l'histoire même séculière, même politique.
Les mutations économiques, sociales, culturelles et politiques de ces années l'interpellent depuis longtemps. L'Église doit-elle être spectatrice indifférente de ces bouleversements ou doit-elle faire partie intégrante du nouveau monde qui se construit et se cherche ? L'Évangile doit-il demeurer caché et préservé dans les tours d'ivoire des églises ou doit-il au contraire être proclamé sans honte aux hommes de ce temps ? Comment l'Église peut-elle entrer en dialogue avec la modernité pour laquelle elle nourrit une méfiance instinctive ? Le monde a besoin du Christ. Et c'est l'Église qui doit apporter le Christ au monde, déclara-t-il par la suite. Jean 23 l'a décidé, la réponse de l'Église aux hommes de ce temps sera universelle et historique, elle sera conciliaire. Car c'est un concile que Jean 23 a en tête, un concile écuménique.
Un concile écuménique, c'est un concile où l'invitation est envoyée aux évêques du monde entier. Alors qu'un concile local, alors ça peut être un concile national, ça peut être un concile ou synode provincial, ou bien un synode diocésain, eh bien évidemment la convocation est adressée dans un rayon beaucoup plus faible. Synode et concile sont tout à fait équivalents.
Parmi les grands conciles écuméniques de l'histoire de l'Église, citons celui de Nicée en 325, celui d'Éphèse en 431, de Chalcédoine en 451, les conciles du Latran à l'époque médiévale, ou encore le concile de Trente au XVIe siècle. Le dernier concile en date est le concile Vatican I, convoqué par Pie IX en 1870 et qui avait proclamé l'infaillibilité du pape. Il avait dû être interrompu et reporté sine die lorsque les troupes italiennes envahirent Rome. Pie XI, puis Pie XII avaient par la suite songé à reprendre ce concile. Le premier avait consulté l'épiscopat, le second avait mis sur pied une commission cardinalis pour réfléchir à la question, mais aucune décision n'avait été prise. Jean XXIII, à l'inverse de ses prédécesseurs, ne consulte personne. La décision de convoquer un concile écuménique est le fruit d'une lente maturation. Il n'en parlera qu'à peu de personnes et l'annoncera officiellement le 25 janvier 1952, après 90 jours de pontificat, à une assemblée de 18 cardinaux ébahis. Le scepticisme est généralisé, mais Jean XXIII tient bon. Le concile est une exigence, car il s'agit de rendre à l'Église sa jeunesse et son ardeur. Il s'agit pour elle de se renouveler, d'être plus évangélique. Un concile, dira-t-il, c'est de l'air dans l'Église.